vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Désormais, ils sortent souvent ensemble, tous les trois. Ils sont surtout...
Alors Marcel,
vont surtout se promener en ville et font mieux connaissance. Benoît apprend que le père d'Elisabeth est employé chez Berlier. Que sa mère ne travaille pas, quand son frère est au lycée et qu'elle reste à la maison à aider sa mère car elle a une maladie nerveuse, tout son corps tremble et se fatigue. De temps en temps, pour se faire un peu d'argent, elle confectionne une robe à sa voisine. Le temps passe. Le père d'Elisabeth, un matin, lui dit
« Tu sers beaucoup avec ce jeune homme. J'aimerais le connaître. Invite-le demain pour dîner. »
« Bien, père. »
Elle n'ose pas dire à son père que ce n'est qu'une connaissance. Dès qu'elle voit Benoît, elle lui dit l'invitation de son père. Benoît, un peu intimidé, accepte. Il se dit que de toute façon, il faudra bien qu'il connaisse la famille. Le repas se passe bien. Les parents d'Elisabeth trouvent Benoît sérieux. « Élisabeth n'ose plus éloigner Benoît. Elle se laisse faire la cour. Les jours passent. Et un jour, le père d'Élisabeth, en prenant leur petit déjeuner, lui dit
« Cela fait déjà quelque temps que tu vois ce jeune homme. S'est-il déclaré ?»
Elle est troublée. « Non, père. »
« Eh bien, il faudra qu'il le fasse, s'il veut continuer à te voir. »
Cela l'attriste. Elle se dit qu'elle devra dire à Benoît de venir moins souvent la voir. Le samedi suivant, elle est seule et gênée avec Benoît. Ils se promènent tous les deux dans les allées du parc de la Tête d'Or. Elle souffle un bon coup et lui dit
« Mon père aimerait, c'est que nous nous voyons moins. »
Benoît la regarde et lui dit « C'est normal, il fallait s'y attendre. Il va falloir que nous prenions une décision. » Elle rougit. Il continue à parler. Quant à moi, ma décision est prise. Je sais que je vous veux. Élisabeth, voulez-vous devenir ma femme ? Elle ne sait quoi répondre. Il est gentil et elle a peur de lui faire de la peine. Alors Élisabeth, elle voit ses yeux et dit « Oui ?» Il sourit. Et la prend dans ses bras. Décide d'en parler à son père et de faire sa demande aux parents d'Élisabeth. Il voit son père et lui fait part de son projet de mariage. Son père lui dit
« Je n'ai rien à te donner !»
Benoît est tellement surpris qu'il ne répond pas. Puis, il va faire sa demande aux parents d'Élisabeth. Un soir, il l'accompagne jusqu'à chez elle. Élisabeth dit à ses parents qu'il veut leur parler. Les parents le reçoivent à la salle à manger. Benoît leur dit « Je n'ai pas de bien, mais j'ai plein d'énergie. » Et l'avenir est à nous. Les parents sont d'accord. Les deux familles se voient et le mariage est prévu pour dans 2 mois. Élisabeth n'est pas très chaude, mais elle laisse faire, de peur de faire de la peine à quelqu'un. De toute façon, le seul garçon qu'elle aime vraiment, c'est son petit frère. Et comme c'est son frère, les préparatifs du mariage se font. Elle prépare son trousseau. Il refond les tapisseries et les peintures de son petit F1, car au début, ils vont vivre dans une pièce.
Le mariage a lieu. Il se fait dans l'intimité. Deux témoins et la famille. Du côté du marié, il n'y a que son père. Mariage civil et religieux.
Mes chères sœurs, mes chers frères, nous voici réunis ici sous le regard de Dieu afin d'unir dans le Saint-Sacrement du mariage cet homme et cette femme.
Au revoir, messieurs. Toujours exact, monsieur le président.
Monsieur le barbat de l'agriculture, monsieur Jantet des finances, monsieur Châtelain des Halles. Ah, qu'est-ce que vous allez nous faire de bon?
Vous me faites confiance comme d'habitude?
Non, ici, je ne commande jamais, je préfère la surprise. Sommes à vous, mon
cher. Très bien.
Le repas de noces se fait dans un café-restaurant sur les bords de Saône. Pas de voyage de noces.
Voilà. Bonjour.
Germaine, occupez-vous de madame Coutouli. Vous avez votre table.
Bien, chérie.
Les jeunes mariés n'ont pas le temps de penser. Une fois chez eux, seuls, là, au milieu du séjour, avec leurs vêtements, ils se sentent vraiment mariés. Tu souris gauchement. Il lui dit : je crois qu'il faut aller nous coucher. Il ne bouge pas, puis il lui prend la main pour l'amener à la chambre. La porte fermée, sans éclairer, tout doucement, il la déshabille. Elle se laisse faire en fermant les yeux. Voit qu'elle est presque nue, il la couche sur le lit. Il se déshabille. Leur nuit se passe ainsi, assez bien. Elle se laisse faire surprise et un peu apeurée. Lui, il va doucement, car il est amoureux. Au début, leur vie n'est pas facile. Il faut faire la lessive à la main, préparer le repas sur un réchaud. Comme ils ne gagnent pas assez, elle fait des petits travaux, les ménages, coups des robes aux voisines. Leur famille ne les aide pas car eux aussi n'ont pas beaucoup de les moyens. Lui est amoureux, n'a pas de problème. Elle, elle ne l'est pas vraiment. Alors elle se force car elle se dit qu'il est gentil et son affection devient de plus en plus forte. Le soir, il veut qu'elle se repose, et comme ils ne peuvent se payer de distraction, il lui achète des magazines féminins. Les jours passent. Un jour, on a sonné à la porte.
Benoît va ouvrir.
C'est la voisine du dessous, une femme grande et forte.
Je m'excuse de vous déranger, mais comme je sais que vous êtes très bricoleur, j'ai la poignée de mon sac qui s'est cassée. Si vous pouviez y faire quelque chose, et lui tend son sac. C'est un sac à main noir, carton et fermoir. Il le prend, regarde. Oui, je crois que je pourrais faire quelque chose. Merci beaucoup, monsieur. Et elle s'en va.
Une fois que la femme est partie, il regarde bien la poignée. Décide de la raccourcir et de la fixer sur le fermoir avec des anneaux. C'est ce qu'il arrive à faire. Une fois que la chose est faite, il regarde bien le sac sur toutes les coutures. Soupire et se dit « C'est pas si difficile à faire. » À chaque fois qu'il sort, il regarde les vitrines des maroquiniers. Les sacs et les prix. Il regarde aussi les femmes avec leurs sacs à main et s'aperçoit qu'elles ont presque toutes un. Ça fait des sacs à faire. Le soir, chez lui, en dînant, il dit à sa femme : j'ai une idée. En plus de mon travail, je vais fabriquer des sacs à main. C'est pas si difficile que ça et ça peut rapporter gros. Il prend un vieux sac de voyage en cuir et le découpe. Fait un modèle de sac à main avec le cuir qu'il a découpé. Il fait deux sacs. Puis les fait coudre à sa femme avec sa vieille machine à coudre Singer. Ça, c'est pas facile, c'est même dur, car le cuir sur une petite machine, c'est pas facile du tout. Une fois que la chose est faite, sa femme les montre à ses amis qui trouvent les deux sacs originaux parce qu'ils ont un grand soufflet, ce qui permet de mettre beaucoup de choses dedans. Les femmes les prennent. Deux femmes prennent le sac, prennent chacun un sac et le payent à un bon prix. Cela fait 100% bénéfice. Avec l'argent, il va acheter deux pots chez un cordonnier, ce qui lui permet de faire 7 sacs. Pour la doublure, il se sert d'une vieille robe de sa femme et de boîtes à chaussures pour les renforcer. Lui fait les modèles, les coupe et elle les pique. Les premiers sacs se vendent chez les voisins, ils ont du succès. Il décide d'en faire d'autres et d'autres, toujours en achetant les pots avec le bénéfice de leur vente et le reste avec de la récupération. Il commence à mettre de l'argent de côté. Lui décide de proposer ses sacs aux maroquiniers des marchés qui font de la vente bon marché. Puis les magasins. Les sacs plaisent. Et pendant que sa femme reste à la maison à les coudre, lui, une fois la coupe finie, il fait les livraisons à vélo. Les ventes marchent bien. Font un petit atelier dans le grenier pour avoir plus de place pour travailler. Il y a de plus en plus de commandes. Il décide de travailler chez son laitier à mi-temps pour pouvoir faire ses sacs et les livrer.
Le temps passe. Leur affaire prospère, il y a plus en plus de commandes et ne peuvent plus faire seuls. Ils décident d'embaucher des apprentis et des manœuvres pour les aider et agrandir leur atelier. Les affaires vont beaucoup mieux pour eux. Elisabeth est très fière de son mari et cette fierté se transforme en amour. Ils travaillent tous les deux à plein temps. Elle s'occupe des factures, comptabilité, papier, lui modèle, livraison, réparation. Ils passent des heures à travailler, l'un à côté de l'autre, sans rien se dire, mais semble entre eux une grande intimité. Les parents d'Elisabeth sont fiers d'eux. Et le Pierre de Benoît commence à le prendre au sérieux. Ils travaillent beaucoup, font énormément d'heures et se couchent tard. 6 heures par semaine, de 6 heures du matin à 22 heures, et mangent sur le temps. Benoît fait une surprise à sa femme. Il a acheté un appartement avenue de Saxe dans un immeuble bourgeois du début du siècle, au 5e étage, un 4 pièces, très grand, avec balcon, moulure, glace, cheminée, parquet à la française, etc. Un jour, il lui a dit de venir avec lui et, arrêté devant l'immeuble, il lui a donné la clé. Elle est folle de joie. Un mois plus tard, ils ont aménagé. Elle a embauché une bonne, mais de Benoît veut une vraie villa. Le temps passe. Naissance de Nicolas, grande joie dans la famille. L'on rêve d'avenir et le début d'une dynastie. L'entreprise prospère. L'on embauche un comptable, un coupeur modéliste et achète des machines à coudre d'occasion. L'on déménage, le grenier est trop petit. Benoît trouve rue Robert, au fond d'une cour, un local à étage et c'est en plein centre de Lyon. C'est assez grand. Le loup met son entreprise dedans. Désormais, c'est une vraie entreprise avec salariés et tout. Il faut la faire prospérer pour le présent et l'avenir. Benoît décide de présenter ses modèles dans les salons, à Paris, en Italie, etc. Ses modèles ont du succès. Elisabeth, depuis qu'elle a un enfant, travaille à mi-temps.
Je suppose que tu auras une calibre. Bien sûr que non, mon petit. Pourquoi tu me demandes ça?
Nicolas grandit, travaille bien à l'école, mais ne supporte pas la solitude et bouge tout le temps. Il est grand, blond, visage osseux, pas très beau, mais sympathique. Naissance de Sylvie. Le temps passe. Sylvie est une jeune fille, pas très belle. Les parents préfèrent leur fils. Sylvie est jalouse de Nicolas. La famille s'épanouit, l'entreprise aussi. Elle grandit encore davantage et déménage à Vénissieux, dans un ancien entrepôt, une ancienne entreprise de valises en carton bouilli. Les locaux sont immenses. Le père décide de garder la fabrication des valises en carton. Les parents se partagent le travail. Le père les bagages, la mère la maroquinerie. Le grand-père, Auguste, s'est mis avec eux. Il fera les modèles. On a embauché des représentants pour montrer les modèles un peu partout. Les relations de Benoît et d'Elisabeth deviennent de plus en plus calmes et silencieuses. Un des représentants qu'ils ont embauché, un grand fort, cheveux bruns, distingué, un dénommé Leroy l'a remarqué. Souvent, lorsqu'ils sont seuls à préparer les articles qu'il doit présenter, elle remarque ses regards langoureux. Après plusieurs années de ménage, cela la flatte. Il le voit et un jour, ils tentent le tout pour le tout. Alors qu'ils sont seuls dans le magasin, il met la main sur sa main. Elle est surprise, le regarde, il se regarde, elle comprend, baisse les yeux. Il la prend dans ses bras et l'embrasse, elle ne dit rien. Désormais, chaque fois qu'ils seront seuls, elle se laissera embrasser. Elle ne peut s'en empêcher et pourtant elle en a honte. Ne se parle jamais de peur de troubler l'autre ou de rompre leur liaison. Lorsqu'elle retrouve Benoît, elle est toute honteuse. Et puis, un jour, elle apprend la mort de Leroy dans un accident de voiture. Le verglas. En plein hiver, route de montagne. Elle en est attristée et en même temps soulagée. Les jours passent, les années passent. Naissance de Denis. Programmé comme les autres, c'est pour la dynastie. Le père est heureux car il sait que ce sera son dernier enfant et c'est un fils. Le frère et la sœur ne font pas attention au dernier. Nicolas a 13 ans, Sylvie 11. Nicolas a peur de l'avenir et ne veut pas vieillir. Toutes les nuits, il prie pour ne pas vieillir ou que Dieu le fasse mourir pendant son sommeil. C'est le début de ses premiers troubles et émoi amoureux. Fin de la présentation. Nicolas se sent troublé sexuellement, mais a peur de passer à l'acte parce que ça le dégoûte. Il ne supporte pas les contacts physiques, même les baisers. Lorsqu'une fille veut simplement l'embrasser pour lui dire bonjour, il se retire en dégoûtant et si elle insiste, il pique une crise, ce qui surprend les gens. Malgré tout, il aime plaire, sentir qu'on le désire, même s'il ne veut rien donner. C'est un allumeur. Il est devenu grand, mince, resté blond. Son visage s'est embelli. Les jeunes filles, il court après. La nuit, dans son lit, il se masturbe en pensant à bébé. Il ne peut s'empêcher de se masturber avant de s'endormir. Cela l'énerve et en a honte. Il prie Dieu pour lui enlever ce besoin. Mais la chose est si forte qu'il ne peut s'empêcher de le faire. Un soir, il est dans le salon à regarder la télévision. Un film policier américain, c'est l'histoire d'un violeur qui s'introduit la nuit chez les femmes seules pour les violer. Nicolas regarde le film comme cela. Il n'a pas sommeil, alors il regarde. Petit à petit, il sent que sa verge se met en érection. Il a de plus en plus envie. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il voit. Ça se déclenche automatiquement pour rien en fin de soirée. Son désir devient de plus en plus grand. Cela l'agace. Il sait qu'il faut calmer cette chose qui fait partie de son corps et en même temps qui est trop indépendant. Ne répond à aucun ordre et ne fait que ce qu'il veut. Ça se met en marche à 100. Puis, presque tout seul. Et puisqu'il est seul au salon et que tout le monde doit être couché, autant le faire bien et en être débarrassé. Alors, il ouvre sa braguette et hop, ouf, ça fait du bien. Au bout d'un moment, il se déculotte un peu plus, car il a envie de se toucher les couilles en même temps. Il fait cela tout en regardant le film dans le noir. Mais malgré tout, il regarde le film sans le voir. Il est trop pris par son plaisir. Tout à coup, la porte s'est ouverte. Vite, il remballe la chose.
Il n'a pas eu le temps de finir de s'arranger que sa mère est vers lui. Elle est en chemise de nuit et robe de chambre rose.
J'aurais jamais su craindre ça de toi. Tu me déçois beaucoup. Toi, faire ça, c'est dégoûtant. Tu te laveras les mains. Tu me déçois. Toi, faire ça.
Et elle sort, dégoûtée. Il est mort de honte et se dit qu'elle aurait dû agir autrement, faire celle qui ne voyait rien. Non, elle a voulu m'humilier, me rabaisser. Il aimerait qu'elle meure. Il ne la voit plus, tellement il avait honte devant elle. Elle qui est si bien, si parfaite. Il la déteste à cause de ça. Oui, il la déteste à cause de ça. Et puis, à son âge, une mère de famille devrait comprendre ce que subit un jeune homme. Elle lui a fait honte sur ce qu'il y a de plus intime. Il ne me pardonnera jamais. Non, jamais, 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 jamais. Il termine de se ranger, éteint la télévision. Il se dit qu'elle doit penser que c'est le film qui a dû lui faire de l'effet, alors qu'il ne l'a même pas regardé. Quelle honte! Quelle honte! Et il sort du salon pour aller se coucher. Désormais, il évitera sa mère, car elle sait ce qu'il fait. Avec les filles de son âge, il est incapable d'avoir des rapports. Elles lui font peur parce que trop directes. Mais un jour, à un thé où sa mère a invité quelques-unes de ses amies, il prend le thé avec elle car c'est sa mère qui lui a dit de venir. Il y a là au salon cinq femmes entre 30 et 40 ans, bon chic, bon genre, habillées en tailleur couleur pastel. Lorsqu'il est arrivé au salon, sa mère l'a présenté à ces dames. « Je vous présente mon fils, Nicolas. » Elle le regarde toutes. Lui se sent gêné. Il est regardé des pieds à la tête, comme si il était nu. Sa mère lui dit « Madame de Condorcet, bonjour jeune homme. » Il voit qu'elle le regarde d'un drôle de regard. Il sent qu'il peut.
Madame de Hautebeur, bonjour jeune homme. Madame de Pontoise, bonjour jeune homme.
Elle le mangerait.
Madame de Saint-Auban, bonjour jeune homme. Madame de Saint-André, bonjour jeune homme.
Puis Nicolas va s'asseoir à côté de sa mère. On lui sert le thé.
Okay.
lait. Deux doigts de lait. Merci.
Tous les visages sont tournés vers lui. Madame de Pontoise dit « Quel beau jeune homme vous avez là !» Elle le dévore des yeux. Cela le gêne et l'amuse. Et comme elles sont plus vieilles que lui, pour s'en amuser, il se laisse courtiser et fait le mimi. Cela les excite. Et lorsqu'il voit qu'elles veulent aller un peu loin, il fait le naïf. Le petit garçon. Cela les excite encore plus. C'est fou ce que les femmes aiment les petits garçons bien sages. Elles adorent jouer à la poupée avec eux. À la fin du thé, où la mère n'a rien vu, ou a fait celle qui ne voyait rien, mais en était fière, c'est tout de même mieux que son fils se fasse violer par une vieille rombière qui est pleine de sous, que s'il se masturbait seul devant la télé. En partant, elles le disent tout au revoir et tiennent tout à l'embrasser. Même un peu longuement et en lui caressant la joue. Pourquoi pas en profiter puisque la mère les leur a mis à disposition ce petit chérubin. Madame de Hautebord, après l'avoir embrassé, dit à la mère, « Vous auriez dû nous le présenter bien avant. » Nicolas se dit, « Elle doit les aimer très jeunes et aurait voulu me voir en culotte courte. » Mon Dieu, les bébés que l'on déshabille et habille en toute impunité. Une femme pédéraste, ça ne se voit pas. C'est entré dans les mœurs et ça a un côté touchant. Madame Pontois lui dit, « Si vous voulez, venez me voir. » À 15 heures, je suis libre. Nous jouerons au rami. » Il lui sourit sans lui répondre.
Au revoir, ma chérie.
Désormais, chaque fois qu'il est avec ces dames, il cherche à les séduire pour s'amuser. Voir les émois d'une vieille chatte en chaleur, c'est très drôle et ce n'est pas du tout dangereux. Lorsque la sexualité ne le tourmente pas, il est intrigué par tout, veut tout savoir. Il croit que la vérité se trouve dans la science. Au lycée, il sympathise avec les professeurs. Après un cours qui l'a passionné, il va voir le professeur pour lui demander encore plus de choses sur le sujet. Il discute sur la vie, la mort, la matière, Dieu, l'homme au milieu de la nature, etc. Il veut tout savoir, tout apprendre. Lorsque les professeurs l'interrogent, les filles le dévorent des yeux et boivent ses paroles. Pour les garçons, c'est la même chose. Une fois, en revenant à sa place, en passant devant un garçon, il l'attrape par le bras et lui dit « J'aime bien lorsque tu parles. » Nicolas, surpris, intimidé, n'ose rien dire. Le garçon est très beau. Il n'a jamais cherché à sympathiser avec lui, par timidité. Mais se souviendra toute sa vie de « J'aime bien lorsque tu parles. » Il aime bien la compagnie des garçons. Là, il n'a pas à faire attention
à sa prestance. Il est plus libre. Lorsqu'il est seul, surtout dans son lit, il se sent attiré par la mort. Il a peur de la vie, de l'avenir. Il n'aimerait pas être un adulte. Toute la nuit, avant de s'endormir, il prie Dieu pour qu'il n'y ait pas de lendemain. Faites à ce que je puisse mourir. Faites à ce que je puisse mourir. Sa sœur Sylvie, qui est devenue une belle jeune fille blonde, grande, mince, avec un visage délicat. Comme ils ont leur chambre l'une à côté de l'autre, ils ont plus d'intimité tous les deux. Avant d'entrer dans leur chambre, ils se parlent un peu. Elle devine en lui une grande mélancolie. Elle lui dit un soir, « Tu as l'air si triste. » Il lui dit, je bouillonne de tout savoir, et en même temps j'aimerais mourir. Elle l'embrasse sur la joue et lui dit, je suivrai de partout. Il lui dit, alors mourons? Non. Il est déçu. Malgré tout, sa sœur cherche à se rapprocher de Benoît, veut toujours être avec lui, aller avec lui, au cinéma, concert, s'asseoir toujours près de lui. Elle le dévore des yeux. Ils sont souvent ensemble, mais malheureusement pas seuls, car d'autres garçons sont avec eux. Elle est la seule fille. Elle fume, boit, s'habille comme eux. Cela gêne Nicolas. Un jour, il lui demande pourquoi elle se comporte comme ça. Elle lui répond, « Parce que j'aime vivre comme un garçon. » Cela le déçoit. Elle aime moins. Un jour, un garçon, grand, brun, beau, de sa personne, cherche à la courtiser. Elle refuse. Cela attriste Nicolas. Malgré tout, elle reste très belle et féminine, même avec ses vêtements masculins. Les jours passent. Un matin, en sortant de chez lui pour aller au lycée, il rencontre dans l'allée un jeune homme, plus jeune que lui de 3 ans, de taille moyenne, mince, cheveux châtains, visage agréable, habillé d'un short marine et d'une chemise blanche. Il est gentil, mais à côté de Nicolas, il paraît quelconque. Nicolas, en le voyant, se sent attiré par lui. Il lui dit, « Bonjour, vous êtes de l'immeuble ?»« Oui, je suis le fils de la concierge. » Je ne savais pas. Le jeune garçon lui dit, c'est-à-dire que ma mère m'avait mis en pension. Vous appelez comment? Philippe Dubois. Moi, c'est Nicolas Scraff. Et Ils descendent les escaliers ensemble. Nicolas lui demande « Vous allez au lycée ?» Le jeune garçon lui répond « Non, j'ai arrêté mes études. Ma mère n'a pas assez d'argent. » « Alors qu'est-ce que vous faites ?»« Je travaille dans une fabrique de bon lait. » « Fabrique de laitage, du côté de Gerland. » « C'est pas trop pénible ?»« Non, ça peut aller. » Et ils se quittent. Nicolas est ému par cette rencontre. À chaque fois qu'il entre ou sort de l'allée, il souhaite la rencontre de ce jeune garçon. Il pense constamment à lui, à un comportement et un désir de paternité avec lui, envie de le caresser, le protéger, le couver. Une fois entré chez lui, ou sortant, il est déçu de ne pas le voir. Bien sûr, il pourrait frapper à la porte de la concierge, mais sous quel prétexte ? Prétexte quelconque, il n'ose pas. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, film intérieur dont c'était la deuxième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.